Tounou Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Tounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé vous emmène à Madagascar, l'un des pays les plus pauvres de la planète. 91% de la population, estimée à environ 25 millions d'habitants, vit avec moins de 1 dollar par jour. Et alors que cette île de l'océan Indien n'a connu ni guerre, ni catastrophe majeure sur le plan national, eh bien, la misère s'y accroît et crée d'énormes besoins. Les autorités se retrouvent débordées, doivent faire face à l'urgence, avec trois priorités officielles. Pauvreté, malnutrition et question de sécurité. Sur le plan sanitaire, l'urgence, c'était la peste l'année dernière et cette année, le paludisme. De ce fait, une maladie comme le VIH-Sida a été négligée au cours des dernières années. Avec une prévalence nationale estimée à 0,3%, la pandémie n'était pas la priorité des priorités. Mais 10 ans après le premier plan stratégique national, eh bien, certains chiffres sont devenus alarmants, faisant craindre le pire aux associations de patients et à certains professionnels de la santé. En 2017, le gouvernement malgache a donc demandé un appui technique et financier à Expertise France à travers l'initiative 5% pour rédiger un nouveau guide de prise en charge. Des orientations conformes aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. 7 experts internationaux sont donc venus sur le terrain pour évaluer le dépistage, la prise en charge et le suivi des patients grâce à leur charge virale. Alors, que révèlent ces études? Quelle est la situation sur place? Madagascar face au défi du VIH-Sida? C'est un reportage signé Igor Strauss.
J'ai tendance à dire que l'épidémie est probablement cachée. Parce que cette prévalence-là ne correspond pas vraiment à ce que l'on constate dans le service, parce que depuis 3 ou 4 ans maintenant, le nombre de patients pris en charge et suivis dans le service ne cesse d'augmenter. Donc, par exemple, l'année dernière, on avait 150 nouveaux cas dépistés à peu près. Et moi, je pense que ces gens-là ne constituent que le sommet de l'iceberg. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui sont infectés, qui ne savent pas encore, qui sont séropositifs, qui vont vraiment le chercher par le biais d'une campagne de dépistage bien menée. Parce qu'en fait, cette prévalence basse entraîne un faux sentiment de sécurité et les gens ne se sentant pas concernés, ne se protègent pas, alors qu'ils adoptent des comportements à risque.
C'était le professeur Mam, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Befelatan, au cœur d'Antananarive. Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Vous rentrez de Madagascar où le taux de prévalence du VIH-Sida de la population générale est soi-disant très bas.
Officiellement, ce chiffre est de 0,3% de la population, mais ce chiffre est en réalité une projection de l'ONU-Sida faite d'après une étude réalisée en 2009 sur les femmes enceintes. Ce chiffre est donc à prendre avec beaucoup de précautions. Comme le disait le professeur Mam, il est certainement plus élevé.
Alors jusqu'à présent, on parlait d'épidémie concentrée dans le pays, c'est-à-dire d'une épidémie qui touchait principalement des populations dites à risque.
Tout à fait. Et ces populations à risque sont les CDI, les consommateurs de drogues injectables, avec une prévalence de 5,6% selon une étude de 2016 du CNLS, le Comité National de Lutte Contre le Sida, qui dépend de la présidence. L'EPS, pour professionnels du sexe, avec une prévalence de 8,4%, toujours selon une étude du CNLS de 2016, et ce qu'on appelle les HSH, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Alors pourquoi ce terme étrange? Eh bien tout simplement pour rappeler que certains hommes qui se prostituent ont des relations sexuelles avec d'autres hommes sans être homosexuels. Pour eux, ce n'est pas un choix. Et donc, chez les HSH, la prévalence est de 14,8%, selon une étude du CNLS de 2014. Des chiffres élevés, mais qui commencent à dater.
Je m'appelle Aslan, j'ai 23 ans et je suis encore un étudiant à la faculté de lettres et des sciences humaines. Ça fait déjà 6 mois que j'ai su que je suis séropositif. J'ai su par un dépistage volontaire. Alors j'assume parce que je sais pourquoi j'ai cette maladie. Je suis bisexuel. Un jour, je suis un peu ivre et alors je n'utilise pas le préservatif. Paf, j'ai eu le virus.
Quelle a été ta réaction quand on t'a dit que tu étais séropositif?
Oh, c'est vraiment très triste parce que je ne peux pas dire à ma mère parce qu'elle a une maladie de Crohn. Alors j'ai peur qu'il ait une crise cardiaque si elle apprend ça. Et ma famille aussi, c'est tous homophobes.
Ils sont tous homophobes?
Oui. Par exemple, si moi, que ma famille apprend que je suis homosexuel, peut-être qu'il va me rejeter. C'est à cause de la culture, parce que la société malgache est un peu fermée. Ils n'acceptent pas ça. C'est vraiment difficile parce que on ne peut pas changer la culture. C'est la culture qui définit la loi dans la société. Alors, c'est vraiment difficile.
Et aujourd'hui, est-ce que tu es sous traitement?
Oui. Depuis que j'ai su que je suis séropositif, le soir même, j'ai pris l'ARV et jusqu'à maintenant. Mais à cause de la situation à Madagascar, l'instabilité politique, j'ai peur qu'il y ait une rupture du médicament parce que l'État prend en charge tous les médicaments gratuitement, alors que j'ai peur qu'il y ait une rupture du médicament. C'est ça mon petit problème maintenant.
Et comment est-ce que tu envisages ton avenir, toi?
Tout d'abord que je suis bisexuel, j'ai une petite copine, mais elle n'a pas encore su que je suis séropositif, mais avec le temps, je vais dire que je suis séropositif, mais on peut fonder une famille, on peut avoir des enfants, parce que j'ai déjà pris des pilules et tu ne risques pas de l'atteindre le virus. Parce que si on reste toujours célibataire, alors la famille va suspecter que qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi je n'ai pas encore marié à mon âge. Alors, je vais fonder ma famille, ma propre famille, avec ma petite copine.
Merci.
De rien.
Je suis Njianyane Harivelo Rizosu. Je suis le secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre le sida à Madagascar, en charge donc de la coordination nationale de la réponse multisectorielle au sida. Je suis médecin de formation et spécialisé en VIH-sida, en sidénologie. Nous avons les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes qui ne sont pas... La société n'accepte pas encore ça à 100% dans certaines régions. Donc, il y a des leaders d'opinion qu'il faut sensibiliser à ce qu'on ne laisse pas de côté ces populations, parce que là, on parle de population. Il faudrait donc qu'on puisse avoir tous les atouts de notre côté, que ce soit au niveau des autorités nationales et également au niveau des autorités traditionnels et les autres leaders d'opinion. Ça, c'est quelque chose qui nécessite vraiment beaucoup d'efforts encore à Madagascar.
Je suis Marie-Isabelle, présidente du réseau MADEDS, Madagascar SIDA. C'est un réseau de 35 associations qui s'éparpillent dans les 22 régions de Madagascar. Pour nous, associations, on aimerait bien lutter contre la discrimination et la stigmatisation. Parce que s'il y a toujours la stigmatisation, la discrimination aux différentes structures, par exemple au niveau des hôpitaux, tout ça, là, les personnes vont refuser de faire le dépistage. Ils préfèrent même dire que je préfère de ne pas connaître mon statut et mourir après.
On parle toujours d'épidémie concentrée, mais on sent quand même des signes qui fait penser qu'on doit essayer de creuser si on n'est pas dans une épidémie de type généralisé. Et on se demande s'il n'y a pas d'autres poches ou d'autres groupes ou d'autres populations, telles que les jeunes par exemple, qui doivent être explorées. L'hypothèse, c'est est-ce qu'on n'est pas dans une épidémie généralisée où la prévalence peut-être ne nous donne pas exactement le profil de l'épidémie à Madagascar.
En général, les personnes vivant avec le VIH à Madagascar commencent à augmenter là. Maintenant, on est à 3575 personnes vivant avec le VIH à Madagascar. Et la situation que nous avons remarquée au niveau de notre association là, c'est que le VIH s'explose et se rajeunissent. Il y a des jeunes de 17 ans, de 16 ans, et il y a même une raison qu'il y a une jeune fille de 11 ans qui est séropositif là parce qu'elle fait le travail de professionnel de sexe. Donc toutes ces choses-là causent des mortalités pour les personnes séropositives à l'heure actuelle à Madala.
Igor Strauss, selon les professionnels de santé, une attention particulière doit donc être portée aux jeunes.
7 jeunes sur 10 n'utilisent pas de préservatif et ils sont moins de 16%, filles et garçons confondus, à connaître leur statut, preuve qu'ils ne se font pas dépister.
Alors Igor, pour savoir comment se passe la prise en charge des patients séropositifs, vous vous êtes rendu au service des maladies infectieuses de l'hôpital Befelatan d'Antananarive. Visite des lieux avec le docteur Volatiana Andrianange.
Moi, je m'occupe surtout. Et là, actuellement, on a juste 2 cas aujourd'hui. Par contre, ces 2 cas sont très très lourds à gérer parce qu'ils sont diagnostiqués au stade sida.
Et donc, ces patients qui arrivent au stade avancé de la maladie, ça signifie qu'ils se sont donc fait dépister tardivement. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que cela traduit de l'offre de dépistage ici à Madagascar ?
En termes de dépistage, c'est encore difficile à Madagascar parce qu'il y a plusieurs facteurs en fait. Parfois, il y a certains soignants qui ne sont pas alarmés par certains signes parce que c'est encore une infection qui reste très très tabou. Ils ne veulent pas trop en parler alors que ça commence à augmenter en termes de fréquence dans le pays. Voilà. À part ça, les patients ne veulent pas consulter les médecins, car consulter les médecins, consulter l'hôpital, c'est un coût. Ils restent chez eux, ils vont aller voir des tradipraticiens et tout ça.
Ça, c'est fréquent, les tradipraticiens ?
Oui, c'est fréquent. Voilà.
On peut rencontrer les patients ?
Oui.
Si j'accepte de parler, évidemment.
Par ici. Donc, elle, c'est une patiente qui a été diagnostiquée également au stade 4 de l'infection à VIH. On a comme infection opportuniste une tuberculose ganglionnaire. Et maintenant, on va faire l'éducation thérapeutique avant d'entamer le traitement. Donc voilà en fait ce qui se passe.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va mieux.
Ça va mieux ?
Oui.
Ça fait combien de temps que vous êtes ici, madame, vous, à l'hôpital ?
Ça fait 2 semaines.
Vous connaissiez déjà le sida ? Vous aviez déjà entendu parler de cette maladie avant ?
Non.
Et vous avez quel âge, madame ?
35 ans.
Vous êtes mariée ? Vous avez des enfants ?
Oui, j'ai 3 enfants.
Et ils vont bien ?
Ils vont bien, mais les 2, son père et les petits, faire l'analyse.
Oui, effectivement, on a fait le test chez les proches. Et du coup, donc, ils sont revenus séropositifs. Le petit, le dernier, et le papa.
Et ça signifie donc que cette femme n'a pas bénéficié de la PTME, de la prévention de la transmission mère-enfant.
On voit qu'elle n'a pas bénéficié de PTME.
Elle n'a même pas été dépistée enceinte.
Dépistée quand elle était enceinte.
C'est fréquent ces cas-là ?
Statistiquement parlant, on n'a pas les données chez les nouveau-nés, dans tout le pays, les femmes enceintes. C'est ça en fait qui font partie des défis et quelque chose qu'il faut instaurer et qu'il faut faire en fait dans ce pays. Mais quand même, on en voit pas mal des nouveau-nés qui sont infectés et des femmes enceintes qui n'ont pas été dépistées.
Bonjour.
Ça va?
Ça va et vous?
Oui, ça va.
C'est une femme de 43 ans donc, qui est admise pour une agitation psychomotrice. Il y a déjà 3 semaines d'hospitalisation déjà. On a fait les investigations. En fait, cette dame, elle a été déjà dépistée il y a 2 semaines avant qu'elle soit hospitalisée. Et c'est vraiment un stade 4 de l'infection. On a suspecté une encéphalite à VIH qui nécessite un IRM cérébral, mais qui coûte très très cher pour le patient. Donc là, elle ne peut pas le faire. Ça peut être également quelque chose qui est rattaché à une névrose chronique parce que cette patiente, elle est au courant de son statut et elle n'arrive pas à accepter en fait. Et parfois elle pleure, elle s'agite comme vous voyez. Donc il y a des manifestations psychiatriques et neurologiques, on ne sait pas vraiment parce qu'on n'a pas l'IRM. Voilà. Et c'est fréquent, hein, ça fait partie de notre pratique quotidienne. Donc certes, on est habitué, mais dans certains cas, on a vraiment besoin qu'on ait un diagnostic pour qu'on puisse traiter. Parce que si le patient meurt, on n'a pas de diagnostic. C'est ça le problème.
Et la mortalité en raison du VIH est élevée à Madagascar ou pas? Et dans cet hôpital en particulier?
On n'a pas vraiment en fait, de résultats statistiques pour le moment, mais je dirais dans la moitié des patients qui sont hospitalisés meurent s'ils ne sont pas diagnostiqués quelle autre infection opportuniste. Voilà.
C'est quand même élevé. Hein.
Oui, c'est quand même élevé.
On va la laisser tranquille.
Oui. Voilà. Visiteuse, hein, et Fafio. Miarakamni. Doctora, sei?
Te atonareu e. Antemud.
Antemud. Et je lui explique qu'on va voir ça. Et là, elle pleure.
Je me souviens.
Ok, madame Youssouf. Ok, c'est.
Je vais voir ça.
Ah, bah, y a le bureau du major.
Oui.
T'es allé le voir. Merci, docteur.
De rien, merci à vous. C'est un plaisir de parler un peu de ce qui se passe, mais tout en sachant que nous, on espère que ça va changer tôt ou tard.
Major, bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous?
Bah bien et vous?
Oui, je vais bien.
Je vous laisse vous présenter, Major.
Bon, je m'appelle Andriantsou Tantil. On m'appelle Major Tantil.
Vous êtes le chef infirmier, c'est ça?
Effectivement, je suis le chef infirmier dans ce service. je m'occupe de la dispensation des ARV, l'éducation thérapeutique, le dépistage de l'infection au VIH et surtout les commandes, la gestion de tous les intrants en fait.
C'est compliqué ça, la gestion des intrants et des stocks d'ARV?
Oui, surtout avant, il y avait beaucoup de ruptures.
Ça va mieux maintenant?
Oui, ça va mieux. Seulement, au début de cette année, il y avait un peu de rupture pour...
On s'assoit?
Oui, pour une molécule en fait. Parce que tous les médicaments qui circulent dans le pays doivent avoir ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Et apparemment, c'était un problème lié à cette autorisation. Donc les médicaments ont été arrivés, mais ont été bloqués sur le port.
Vous me disiez, donc vous faites aussi de l'éducation thérapeutique. Est-ce que vous trouvez que les patients sont bien informés concernant la maladie, concernant la bonne observance, c'est-à-dire respecter le traitement et les doses prescrites?
Plus de la majorité des patients qui vivent avec le VIH ont un niveau d'éducation assez bas. Donc on essaie juste de leur expliquer qu'il ne faut jamais interrompre le traitement. Surtout pendant la crise à Madagascar, il y avait pas mal de ruptures. Donc ils essaient d'économiser les médicaments. Donc... On a essayé de leur expliquer que ce n'est pas nécessaire de diviser le médicament en deux pour pouvoir économiser un peu. Et il faut bien respecter la dose. En fait, il y a un jeune homme qui est suivi dans le service depuis l'année 2013. Et il est ici pour prendre le traitement. Donc voici M. Christophe.
Bonjour.
Oui, bonjour monsieur. En fait, je m'appelle Christophe, j'ai 28 ans, j'ai pas de travail, j'ai pas de financement. Je vivais avec le VIH depuis l'année 2013. Je vais tout le temps ici à l'hôpital pour prendre mes médicaments parce que j'ai pas l'endroit où mettre mes médicaments dans la rue.
Et alors, dans quelles circonstances vous avez su que vous aviez le sida donc, en 2013?
Ben avant, je suis un HHH.
Donc, un homme qui a des relations sexuelles avec les hommes.
Ok. Avant, c'était pour gagner de l'argent parce que je ne travaille pas. Donc, j'ai fait l'HHH pour gagner de l'argent seulement, mais pas un amoureux. Ni.
En fait, vous vous êtes prostitué.
Oui, on peut le dire que j'ai prostitué.
À quel âge vous avez commencé à vous prostituer donc?
À 20 ans. Ça a duré 300 à peu près.
Merci beaucoup.
Il n'y a pas de quoi. Merci à vous, monsieur.
Major, j'ai une petite question pour vous.
Oui.
Donc ce jeune homme étant SDF, il me dit qu'étant malade, il a besoin d'avoir une bonne alimentation.
Oui.
Donc justement, quelles sont les complications dans ce type de cas, quand une personne séropositive vit à la rue, dans quelle mesure ça peut compliquer le traitement?
Il n'est pas le seul à avoir des problèmes avec l'alimentation. Donc, quelquefois, ils ont tenté de stopper le médicament, le traitement. Donc, ça aggrave, en fait, l'infection au VIH. Parce qu'on sait que le VIH, ça détruit l'immunité de la personne. Donc, si cette personne n'est pas bien nourrie, c'est plus compliqué que pour les autres. Donc, en fait.
Et donc, aujourd'hui, ce patient, après quelques années de traitement, concrètement, il en est à quel stade? Comment ça va?
En fait, il n'a pas immédiatement accepté le fait qu'il soit porteur de VIH. Donc, il était un peu confus. Et ce n'est qu'après quelques temps qu'il a accepté de suivre le traitement, la prise en charge. Et à ce moment-là, il présentait déjà des signes, des maladies qu'on appelle les infections opportunistes, notamment la tuberculose. Donc il a reçu des traitements de la tuberculose il a commencé à se rétablir. Mais après, il a fait une rechute de la tuberculose. En ce moment même, il prend encore, n'est-ce pas ? Il prend encore le traitement de la tuberculose avec et aussi le traitement de l'ARV.
Et est-ce qu'il a dû passer aux antirétroviraux de deuxième ligne ?
Oui, en fait, c'est ce qu'il prend actuellement, c'est le traitement de deuxième ligne. Du fait qu'il a interrompu le traitement, on ne pouvait pas continuer avec. Donc on a dû switcher avec la deuxième ligne.
Merci.
De rien, je vous en prie.
Sur RFI, aujourd'hui, nous parlons de la prise en charge du VIH-Sida à Madagascar. Après l'hôpital, nous partons à présent dans un centre de santé de base à Analavore. C'est à 120 km à l'ouest d'Antananarive, la capitale malgache. Analavore est un carrefour commercial des Hauts Plateaux.
Une région montagneuse d'une beauté époustouflante. Et j'ai été reçue par le médecin-chef Saundra Ramanarinsu.
Ici, on fait la CPN tous les jours.
Donc la consultation prénatale.
La consultation prénatale tous les jours. Durant la première CPN, on fait le dépistage en même temps syphilis et VIH.
Systématiquement ?
Systématiquement, car nous sommes en zone rouge d'IST, VIH. Ici, c'est un carrefour où il y a beaucoup de gens qui passent. Les missionnaires, les vendeurs de bœufs et tout. Donc, il y a le risque d'IST. C'est pourquoi on ne demande pas l'avis des femmes. Si on demande leur avis, c'est toujours non. Elles ne veulent pas savoir leur statut sérologique. Pour eux, le sida, c'est la fin du monde.
Mais alors, est-ce que beaucoup de femmes font la première consultation prénatale? Ou est-ce que, comme on est en milieu rural, qui a, j'imagine, le problème de la distance, certaines ne font pas ces consultations et donc passent entre les mailles du filet?
Elles ne font pas la consultation. Vu la distance, vu la négligence, l'existence des matrones, c'est un grand problème. On voit la femme déjà, dilatation complète, on fait l'accouchement, on ne sait même pas si elle est séropositive ou non. Donc c'est pourquoi on fait nous on a décidé de faire le dépistage systématiquement.
Et concrètement, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes séropositives lorsque vous les testez ou pas?
Concernant le VIH, jamais. C'est ça le grand problème ici. On n'a jamais trouvé une seule femme porteur de virus. Par contre, concernant la syphilis, il y en a beaucoup.
Mais pourquoi c'est un problème de ne pas trouver de femmes séropositives? C'est parce que vous savez qu'il y en a et que vous ne parvenez pas à elles? Ou pourquoi ça vous inquiète ça?
Vous voyez, on ne sait même pas où elles sont. Premièrement, secondo, elles ne viennent pas ici. On n'est pas obligé de faire un dépistage partout. C'est seulement ici au centre. Et aussi, il y a la rupture de termine.
Donc du test.
Donc du test, oui. Là, c'est un grand problème. Normalement, on devrait faire le test postpartum, c'est-à-dire après accouchement. Mais vu l'insuffisance du nombre de tests, c'est pourquoi on ne peut pas faire. Quand on commande, disons, 200 tests, on n'obtient que 100 seulement.
Et les jeunes, eux, vous leur proposez ou est-ce qu'ils viennent naturellement ou pas du tout?
Pas du tout. Ici, on s'en fout de ça.
Du coup, ça vous fait craindre un peu pour la population de la région ici ou pas?
Si, on a vraiment peur. Hein, le risque du métier, vous voyez. Ici, il y a presque les 18 tribus de Madagascar. Malheureusement, il y a les tribus du sud de Tuléar qui ont leurs coutumes, c'est-à-dire il pratique la polygamie. Et la polygamie, c'est en quelque sorte une porte d'infection sexuellement transmissible.
Ça, cette tradition, elle se répand de plus en plus ?
Oui, ça se répand de plus en plus au niveau des autres ethnies. Et ce n'est pas un problème social, hein. On accepte. Problème de santé pour nous, oui. Ils n'ont jamais vu un sidéen. C'est ça le problème. C'est pourquoi ils disent que le sida, ça n'existe pas. C'est une histoire racontée, c'est une histoire qu'on veut répandre partout pour ne pas avoir d'autres partenaires sexuels, quoi. Voilà.
Merci.
Ce problème du dépistage des femmes enceintes est-il généralisé ?
Oui, seuls 30% des femmes enceintes se voient offrir la possibilité d'un test dans l'ensemble du pays, mais vous l'avez entendu, elles peuvent refuser. De plus, seuls 46% des femmes enceintes se rendent à la première consultation prénatale, ce qui est très peu. Selon l'ONU-SIDA, en 2017, il y avait 1100 femmes enceintes séropositives dans le pays, mais c'est uniquement une estimation, mais seuls 6% d'entre elles sont sous traitement. Et de façon générale, Caroline, vous connaissez les fameux objectifs 90, 90, 90 pour 2020, à savoir que 90% des patients aient accès au dépistage, que 90% des personnes dépistées soient mises sous traitement et que 90% des personnes sous traitement aient une charge virale indétectable. Eh bien, à Madagascar, on en est seulement à 8% de dépistage, 82% de patients sous traitement et 17% à peine de charge virale indétectable. Cela témoigne donc du retard pris par le pays.
Igor Strauss, les autorités malgaches sont conscientes de ce retard et en 2017, on le disait tout à l'heure au début de cette émission, elles ont demandé un appui technique et financier à Expertise France à travers l'initiative 5% pour rédiger ce nouveau guide de prise en charge. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'initiative 5%?
Eh bien, la France est engagée aux côtés de la communauté internationale à éliminer les pandémies, à savoir le sida, la tuberculose et le paludisme, d'ici 2030. Elle est ainsi le deuxième contributeur historique du Fonds mondial après les États-Unis, avec une contribution totale de 4,5 milliards de dollars. L'initiative 5%, lancée en 2011, est la deuxième modalité de la contribution française au Fonds mondial. Elle apporte une expertise francophones aux pays éligibles afin de les appuyer dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes du Fonds mondial au sein du département santé d'Expertise France.
Et 7 experts internationaux sont donc venus à Madagascar pour évaluer le dépistage, la prise en charge et le suivi des patients grâce à la charge virale. Parmi eux, il y a André Inouole, professeur d'immunologie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Il faut déjà offrir le dépistage à la population. Actuellement, il est estimé environ à 35 000 personnes vivant avec le VIH dans le pays, mais je crois que 3 à 5 000 sont connues. Donc, il faut aller chercher les autres dans les populations clés qui sont les plus touchées avec des prévalences de plus de 10%. Il faut accentuer dans le dépistage au niveau de ces populations pour pouvoir identifier toutes les personnes positives, les mettre sous traitement. Et étant sous traitement, cela va réduire donc la transmission parce que vous savez que ces populations sont certes plus exposées, mais ces populations aussi exposent la population générale à l'infection à VIH. Donc, c'est bien de se focaliser sur ces populations. Ensuite, il y a les mères. Il y a tout un travail à faire pour amener déjà les femmes à l'hôpital. Et ensuite, lorsqu'elles viennent à l'hôpital, leur offrir systématiquement le dépistage. Voilà tous ces efforts qu'il faut conjuguer. Mais ce qui apparaît nouvellement dans les recommandations qui ont été faites, c'est l'extension du dépistage communautaire. Pour le moment, le dépistage communautaire était limité à l'autorisation accordée par le ministère de la Santé à certaines structures sanitaires communautaires. Et aujourd'hui, il s'agit d'autoriser des agents communautaires formés, donc qui seront des prestataires communautaires, à aller faire le dépistage auprès de leurs pairs, mais aussi auprès de certaines personnes sensibles de la population, comme les jeunes, comme les sujets index des femmes enceintes dépistées positives. Donc vraiment aller chercher ceux qui sont infectés, les dépister et les envoyer à l'hôpital pour initier le traitement. Pour nous, c'est vraiment cette stratégie qui va permettre d'augmenter le taux de dépistage. Et avec
de façon conséquente ?
Je pense que oui. Les associations avec lesquelles nous allons discuter sont déjà prêtes à attendre que ça. le feu vert des autorités sanitaires pour pouvoir se déployer donc sur le terrain et réaliser le dépistage en direction des populations clés et d'autres populations vulnérables.
Le dépistage communautaire, c'est la grande nouveauté de ce nouveau plan stratégique national, Igor.
Oui, et toutes les associations de patients le réclamaient. Pour elles, il était indispensable de démédicaliser le dépistage. Le pays s'est donc engagé à le faire. Une phase pilote devrait commencer assez rapidement et si les résultats sont concluants, il sera généralisé.
L'expert responsable de l'évaluation de la prise en charge était le docteur Thomas Perpoint, praticien hospitalier au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Lyon.
À mon sens, un patient séropositif, déjà, doit être accueilli par la communauté, mais également par l'hôpital et la structure de soins. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un espace dédié ou partagé avec d'autres spécialités, où la stigmatisation n'est pas trop forte. Il y a une extrême difficulté à maintenir les gens dans la file active. C'est-à-dire qu'une personne est diagnostiquée, elle est vue une fois, et puis finalement, elle disparaît de la structure de soins.
Donc il y a beaucoup de perdu de vue, comme on dit.
Exactement. Le taux de perdu de vue est majeur et doit être nettement amélioré. Et ceci passera par l'éducation à la santé, la dédramatisation finalement de cette maladie, ce qui a été fait dans plein d'autres pays, et finalement, l'acceptation de la maladie. Ensuite, derrière, il faut un réseau de compétences en médecine, mais également en accompagnement. On va appeler ça psychologique, on va appeler ça psychosocial, on va appeler ça de l'éducation thérapeutique. Ce sont des outils, mais des outils faits pour que le patient puisse acquérir la connaissance de sa maladie et finalement faire son propre parcours de soins derrière, avec des temps de consultation, des temps d'explication, des temps collectifs partagés sur la maladie pour dédramatiser la situation, et puis des temps ensuite de suivi avec ce qu'on appelle la charge virale, qui va permettre de s'assurer que le traitement est efficace et que la personne évoluera normalement. Aujourd'hui, la maladie traitée convenablement avec les bonnes molécules et le bon suivi autorise une vie de qualité avec une espérance de vie aussi longue que le traitement est pris, et donc on n'est plus dans une problématique de transmission si on est bien traité, transmission à l'enfant, transmission au conjoint.
En résumé, quels sont les 2-3 points qu'il est fondamental d'améliorer en termes de prise en charge des patients ?
L'accueil des patients, c'est-à-dire la connaissance de la maladie donnée aux patients, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Moi, je pense que c'est une priorité pour le pays, c'est fondamental. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut qu'il y ait un circuit de référencement correct dans le pays, c'est-à-dire qu'il va y avoir des élites médicales qui vont très bien connaître la maladie, et elles sont présentes, elles sont déjà actives, et il va falloir créer du réseau de référencement pour que des médecins éloignés puissent poser des questions, puissent arriver à référer des patients compliqués. Ensuite, troisième point, il faut doter le pays d'outils diagnostiques pour les infections opportunistes, c'est-à-dire que certaines situations...
Donc, tuberculose, hépatite C.
Voilà, plutôt tuberculose, cryptococcose, pneumocystose, des maladies qui sont associées à l'immunodéficience liée au VIH. Aujourd'hui, les outils diagnostiques sont pas assez partagés, sont pas assez présents, et la mortalité du VIH est conditionnée par ces maladies-là. Et enfin, il faut que on puisse avoir des recommandations solides et que ces recommandations soient suivies, c'est-à-dire que les médecins et les prescripteurs soient formés, évalués et accompagnés dans leurs prescriptions.
Et le dernier point, c'est le suivi des patients grâce à la charge virale. Alors, est-ce que Madagascar dispose de laboratoires pour évaluer cette charge virale ?
Alors, officiellement, oui, il y en a deux. Le laboratoire national de référence qui possède le matériel, mais qui ne l'utilisait pas jusqu'à présent. Et le CICM, le Centre d'infectiologie Charles Mérieux, qui dépend de la faculté de médecine de Tana. Mais ces deux laboratoires doivent davantage collaborer, comme le rappelle un autre expert, le docteur Éric Nérienet, virologiste.
Deux laboratoires ont des vocations différentes. Le laboratoire national de référence a son rôle à jouer dans le système de santé du pays. Le laboratoire de la faculté de médecine, qui avait été mis en place par la Fondation Mérieux et qui est un laboratoire aujourd'hui national, son rôle normalement, c'est plus de faire de la formation, de la recherche avec les étudiants, mais ce n'est pas son rôle de faire cet examen en routine. Le problème de santé publique que représente le VIH et l'accès au traitement à Madagascar fait que il faut que ces deux laboratoires puissent travailler en synergie de façon à sécuriser le plateau technique de la capitale. Sécuriser comment ? En pouvant interchanger les techniciens, en pouvant interchanger les équipements, en pouvant dépanner en réactif ou dépanner en matériel de toutes sortes. L'idée, c'est de sécuriser l'accès à la charge virale. On ne peut pas se permettre quand on commence à faire de la charge virale dans un pays, à ce qu'on ait une rupture d'activité de cette charge virale. Donc, il faut mettre ces deux laboratoires à un même niveau, il faut qu'ils puissent collaborer ensemble. Une autre approche pour faire de la charge virale, c'est ce qu'on appelle les plateformes ouvertes, qui sont beaucoup plus flexibles, beaucoup moins chères, mais qui font moins de débit. Il existe un troisième outil pour faire de la charge virale, c'est ce qu'on appelle les point of care, qui eux sont destinés plutôt à des laboratoires excentrés et qui permettent de faire des tests unitaires. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent absolument pas faire de débit, mais ils peuvent intervenir en situation d'urgence. Par exemple, dans le contexte du diagnostic précoce de l'enfant, exposé par sa mère au VIH, et également pour les femmes enceintes en troisième trimestre de grossesse. Il existe enfin un quatrième outil, ce sont les dry blood spots, ce sont des papiers buvards qu'on utilise idéalement pour faire ce diagnostic précoce des enfants, mais ça peut également servir à terme pour faire des prélèvements sanguins dans des lieux qui sont complètement excentrés, isolés, où là, il est difficile de faire circuler soit les patients, soit les tubes de sang. Et dans ce cas-là, on fait un prélèvement sanguin sur un papier buvard. Donc, on dispose aujourd'hui de ces quatre outils. L'idée, c'est d'associer de la façon la plus astucieuse dans un pays ces quatre outils, de voir comment est-ce qu'on peut, avec eux, établir une stratégie nationale de sécurisation et d'élargissement de l'accès à la charge virale.
On l'a rappelé tout au long de cette émission, hein, Madagascar manque de données fiables, les taux de prévalence affichés sont certainement sous-évalués et les données concernant les habitudes et les pratiques des populations à risque quasiment inexistantes. Du coup, Igor Strauss, vous avez suivi une équipe de médecins du monde pendant une maraude de nuit durant laquelle des études sont menées auprès de ces populations à risque.
Bonsoir.
Bonsoir, je m'appelle Béatrice et je suis la coordinatrice générale des médecins du monde à Madagascar. On est en plein centre-ville de Tana, à Tsaralalan. C'est un quartier qui est assez animé le soir et on trouve normalement beaucoup de professionnels de sexe qui sont un peu les cibles de l'enquête qu'on va faire ce soir.
D'accord, donc concrètement c'est quoi cette enquête ?
Ce qu'on essaie de voir avec ce projet, c'est de suivre le parcours de soins, notamment de la population clé pour le VIH. Donc on fait une série d'enquêtes pour voir à chaque étape du parcours de soins comment ça se passe. Quelles sont les difficultés, quels sont les points qui fonctionnent, pour essayer d'élucider à la fin quels sont les possibles points d'amélioration et partager ça avec toutes les institutions et tous les organismes qui travaillent sur la lutte contre le VIH. Il n'y a jamais eu d'enquête de prévalence telle qu'elle à Madagascar, donc effectivement il y a un manque de données sur la situation réelle de prévalence pour savoir si c'est vraiment une épidémie concentrée, mixte ou sur la population générale.
Et pour l'instant, qu'est-ce qui ressort de cette enquête justement avec les personnes que vous avez pu interviewer ?
Alors, les analyses n'ont pas été encore faites, mais c'est vrai que pour l'instant, par exemple, on peut dire qu'une des enquêtes qui est réalisée dans le centre de dépistage, elle est difficile à accomplir parce qu'il n'y a pas assez de gens qui vont se faire dépister. Donc ça, c'est déjà une donnée en soi. Le fait que les centres de dépistage sont assez vides et on n'arrive pas à trouver des gens à qui enquêter.
Et justement, avec la stigmatisation, la discrimination, comment vous faites pour approcher ces populations clés, justement, alors ce soir les professionnels du sexe, et est-ce qu'elles acceptent toutes de vous parler ?
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec quatre associations partenaires et ONG nationales qui travaillent chacune avec une population spécifique. Donc, les enquêteurs de ce programme, c'est des enquêteurs issus de ces associations, donc c'est des enquêteurs pairs pour les enquêtes auprès des populations, des professionnels des sexes, c'est des professionnels des sexes qui font les enquêtes, et ensuite de suite.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est Robertine, l'enquêteur.
Ça va ?
Ça va bien.
Concrètement, c'est quoi les questions que vous posez, vous, madame ?
Les questions, on est un peu plus VIH/SIDA.
En fait, ça concerne le VIH/SIDA, comment ça transmet et pourquoi les gens ne font. C'est très rare le dépistage volontaire.
Est-ce qu'elles utilisent des préservatifs ?
Beaucoup de PS n'utilisent pas le préservatif parce que c'est à cause de l'argent. En fait, si les clients exigent qu'on ne va pas utiliser et donner beaucoup plus d'argent, et elle accepte ça. C'est pour qu'elle ait plus d'argent.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va?
Oui.
Vous parlez français, mademoiselle?
Un peu.
Un peu. Vous avez quel âge?
26 ans.
Et ça fait longtemps que vous êtes...
Non.
Combien de temps?
Ça fait 2 ans.
Vous aviez un travail avant ou pas?
Oui, la zone France.
Et pourquoi vous avez arrêté la zone franche alors?
À cause des... Le salaire petit, trop petit.
Vous gagnez mieux en étant prostituée qu'à la zone franche?
Oui.
Comment ça se passe le travail?
Ça souffle beaucoup. Pendant toute la nuit, ça souffle. Froid, peur, tout ça.
Fatigué.
Si j'ai trouvé quelqu'un qui est méchant, c'est ça le plus difficile.
Il y a beaucoup de gens méchants?
Oui, beaucoup. Ils frappent. Ils ne donnent pas comme ça.
Ils ne donnent pas l'argent?
Oui.
Ça arrive souvent?
Mm-hmm. Si j'ai trouvé autre travail, c'est fait.
Est-ce que vous utilisez des préservatifs avec
oui.
vos clients?
Uh-huh.
À chaque fois?
Oui.
Et si vous proposez plus d'argent, mais sans préservatif, qu'est-ce
non.
que vous dites?
Ça, pas possible, ça.
Pourquoi?
À cause de la maladie, c'est tout.
Ah, la maladie, c'est le VIH?
Oui.
Et vos collègues ou les, je sais pas comment les appeler, vos amis, celles qui se prostituent aussi, elles sont comme vous à utiliser uh-huh. systématiquement le préservatif
uh-huh.
ou est-ce qu'il y en a certaines qui ne veulent pas le préservatif pour avoir plus d'argent?
Oui.
Ça arrive?
Oui.
Ouais.
Beaucoup.
Est-ce que vous avez fait le test?
Oui, je fais souvent parce qu'ici, il y a quelqu'un qui travaille comme nous. Il fait les tests VIH souvent, par mois.
Et pour l'instant, il dit quoi le test?
Oh! Il dit ça va.
Ça c'est, va. C'est négatif?
Oui.
Uh-huh. Bon, bah, merci beaucoup.
Ok, merci.
Merci, c'est vraiment gentil.
Nous laissons le mot de la fin à Isabelle du réseau MadAIDS pour Madagascar Sida, réseau de 35 associations qui couvrent l'ensemble de l'île.
Avec l'effort de tous, si on veut réussir là, il faut prioriser. Qu'est-ce qui est prioritaire? Trouver les personnes séropositives là. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est traiter ces gens-là. Donc si on priorise et on s'engage, on est volontaire à lutter, on va réussir là et puis peut-être le sida va, comme un consultant dit, il se dégage de Madagascar.
Madagascar face au défi du VIH-Sida, c'était un reportage signé Igor Strauss, réalisé par Didier Bleu. Demain, nous parlerons des maladies liées à l'eau à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.